Talim.
Vous êtes dans cette tension entre la fluidité d'une langue, la mobilité d'une langue.
Talim.
Et puis les différences de statut qu'elle traverse en tant que langue véhiculaire.
Et peut-être que ce qu'on voit le plus au théâtre vient de l'oreille. Le théâtre n'est pas un art visuel, c'est un art de l'imaginaire.
Talim.
S'anime.
Bienvenue sur Talim s'anime, le podcast du laboratoire Talim, où des chercheuses et des chercheurs en littérature et histoire des arts partagent leurs travaux, leurs questionnements et leurs découvertes. L'idée de ce podcast ? Faire entendre l'interdisciplinarité des recherches et montrer comment elles dialoguent avec le monde d'aujourd'hui. Je suis Peggy Cardon, chargée de médiation scientifique au CNRS à Talim, et pour ce premier épisode, je reçois Jonathan de Genève. Vous êtes maître de conférences en littérature à la Sorbonne Nouvelle, membre statutaire de Talim, et vous êtes coordinateur des relations internationales avec l'Océanie anglophone. En 2019, vous avez publié un ouvrage intitulé « Le fil du récit » aux éditions Furore. Dans ce livre, vous interrogez la place et le rôle du récit aujourd'hui, à une époque où les histoires se multiplient, se fragmentent, se médiatisent parfois jusqu'à saturation. Jonathan de Genève, bonjour.
Bonjour Peggy.
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire le fil du récit ?
Alors, en fait, il y a beaucoup de choses à l'origine du projet. Déjà, il y avait une thèse avant sur la déconstruction du récit. Et au terme de cette thèse, je me suis rendu compte que la question du fil, de la connectique narrative, était chose qui me semblait très intéressante et aussi pas traitée en tant que telle. Et puis surtout, il y avait la volonté de parler du récit en étant attaché à nos expériences quotidiennes narratives. Ce qui m'a amené à deux questions très vite, c'était d'une part, à partir de quel moment est-ce qu'il y a récit ? Qu'est-ce qu'il faut pour un récit ? Et à partir du moment où il y a récit, qu'est-ce qui se passe dans un récit ? Voilà mes deux questions de départ qui font droit donc à l'expérience. J'ajoute que j'ai aussi toujours été frappé par le fait que quand quelqu'un raconte une histoire ou quand nous-mêmes on raconte une histoire, on ressent cette espèce de nécessité qui fait qu'on part d'un point et on va vers un autre, quelque chose un peu comme un tunnel. Et il y a aussi le fait que dans les situations courantes, on est sans cesse interrompu. Alors, on va dire hypothèse haute parce qu'on suscite l'intérêt, hypothèse basse parce qu'on est ennuyant, ou alors peut-être parce que justement les gens autour de nous, comment dire, ils ressentent aussi cette armature que l'on suit, ce carcan. Et il me semble que du coup, là était en germe cette idée, cette volonté, cette intuition de tenir ensemble continu et discontinu. D'ailleurs, cette tenue ensemble, elle est illustrée de façon jubilatoire dans deux livres au moins. Jacques, le fataliste de Diderot, où Jacques ne cesse d'être interrompu, et Tristram Shandy de Stern. Stern qui va jusqu'à dessiner le fil du récit, alors comme on l'imagine, qui est absolument pas linéaire, mais qui part dans tous les sens. Et bon, voilà ce que je peux dire sur l'origine du projet.
Mais, l'hôtesse, si vous repreniez l'histoire du mariage singulier...
Volontiers, à la condition que votre valet se taise.
Je vous le promets.
Les cris de ma pauvre Nicole m'ont troublée, je ne sais plus où j'en étais.
Mais vous n'avez encore rien dit.
Ah, j'y suis. Ces deux hommes avec lesquels j'étais en querelle pour ma pauvre Nicole, lorsque vous êtes arrivés, monsieur...
Dites, messieurs.
Et pourquoi ?
C'est qu'on nous a traités jusqu'à présent avec cette politesse et que j'y suis fait. Mon maître m'appelle Jacques, les autres Monsieur Jacques.
Je ne vous appelle ni Jacques, ni Monsieur Jacques. Je ne vous parle pas. Ces deux hommes sont bons gentilshommes. Ils viennent de Paris et s'en vont à la terre du plus âgé.
Et qui c'est cela ?
Eux qui le disent.
Belle raison.
Ne vous laissez pas arrêter, l'hôtesse. Mon valet a la cervelle un peu brouillée.
À son âge ? Oh, cela est très fâcheux.
Très fâcheux de ne jamais savoir où l'on va.
Effectivement, vous pensez une sorte de rupture. C'est en ce sens qu'il faut entendre la discontinuité ?
Oui, parce qu'il me semble qu'il y a des enchaînements, et d'ailleurs je tâche de montrer qu'il y en a quatre, mais ils ne sont pas simples. Il n'y a pas de simple enchaînement logique. C'est une affaire très compliquée, même si ça peut se passer sur des lieux très petits. Hein. Il suffit au fond d'un connecteur logique au temporel pour faire un récit. Mais il n'y a pas de simplicité, précisément parce que la continuité, elle a toujours affaire à la discontinuité. Et c'est ce que je tâche de montrer dans le livre, y compris sur des récits tout petits. Je prends l'exemple d'un récit de 6 mots, qui, à ma connaissance, est le plus petit jamais écrit par Hemingway. Et donc là, on voit bien, d'une part, les principes qui sont à l'œuvre dans l'enchaînement, mais d'autre part, le fait qu'il s'y joue beaucoup, beaucoup de choses qui font que ce n'est pas complexe, c'est délicat, qui font que nous-mêmes, lorsqu'on suit un récit, on investit beaucoup. Si, par exemple, celui ou celle qui raconte en fait très peu du côté de la suite, nous, du côté du suivi, on peut en faire beaucoup. Et parfois même, moins il y en a du côté de la suite, plus on est sollicité à trouver du sens, parce qu'on est mu par cette soif de sens.
Et donc, en fait, ici, il faut bien redire à nos auditeurs que vous parlez par le récit d'événements.
Oui,
et il s'agit effectivement de revenir à l'idée qu'un événement peut rompre le cours habituel des choses, que ce n'est pas finalement compensé, en fait, un manque de sens de cet événement.
Oui, Peggy, vous avez absolument raison. C'est le fond du problème. C'est-à-dire la question de l'événement. C'est vraiment le fond du problème. Et d'une part, parce que c'est bien avec ça qu'on fait des récits, on va toujours privilégier ce qui défraie la chronique, c'est-à-dire l'événement en un sens fort. Et qu'est-ce que c'est qu'un événement en un sens fort? C'est justement ce qui vient interrompre un cours, ce qui sidère, ce qui frappe, ce qui casse le train-train habituel des choses. J'aime beaucoup cette citation, cette idée de Paul Venn dans « Comment écrit-on l'histoire ?» Il dit que l'événement, c'est ce qui ne va pas de soi. Bon voilà, c'est avec ça qu'on raconte, c'est ça qu'on a à raconter. La difficulté, c'est que sitôt qu'on raconte, on va essayer d'acclimater, de tempérer, de faire entrer dans un cours. Et je crois que si ce livre parle autant de continu aux prises avec du discontinu, c'est parce qu'il tâche de mettre au centre la question de l'événement, qui est cette chose un peu biface. Du côté du continu, l'événement, il est fondateur, il cimente des groupes, il cimente une communauté. Parfois même, un événement, c'est ce qui ouvre une période. On fait commencer le XXe siècle ou un autre siècle à partir de tel ou tel événement. Donc, on voit bien à quel point on en a besoin pour raconter, y compris à grande échelle. Mais d'un autre côté, sur le coup, l'événement, il nous ôte les mots de la bouche, on ne sait pas quoi faire, on ajuste des scénarios. C'est ce paradoxe qui est au cœur de tout le travail.
Pourriez-vous revenir sur ce fil comme lien, comme tension? À qui ou à quoi il se destine finalement, selon vous?
Alors, il y a cette tension dans le fil parce que je crois que le fil, il est à la fois l'outil qui nous permet d'assembler, de synthétiser l'hétérogène, comme dit Ricoeur, et puis en même temps, il est toujours témoin de cette difficulté qu'il y a à dire ce qui, par définition, est rétif à l'organisation. Il est aussi le lieu d'une tension, ce fil, parce qu'en réalité, vous voyez, Peggy, vous avez parlé d'événements, mais il me semble que parler d'événements, c'est déjà parler de quelque chose qui est un peu construit. J'essaye d'expliquer dans le livre qu'en réalité, lorsqu'on parle d'événements, on parle de quelque chose qui est toujours déjà prédécoupé pour le récit. D'une part parce qu'on va prélever dans un réel qui est infiniment plus vaste que ceci ou cela, et d'autre part parce que ce prélèvement, il est fait en vue justement d'un assemblage. Il y a une très très belle image de Chamoiseau dans un livre qui s'appelle Le Conteur, où il compare ses gestes au fait d'aller chercher dans la mer des faits de ce qui nous arrive un coquillage. Et ce coquillage, on va déjà l'extraire, le polir, le nettoyer, et puis bien sûr, on le prend pour en faire quelque chose. On peut, si par exemple on pense au Covid, un événement, le Covid. Oui, mais déjà, dans le Covid, quoi? Le Covid, c'est quand même presque 2 ans. Donc, quoi exactement? Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on va prendre? Et puis, il y a fort à parier que la chose que l'on va extraire, on va la choisir parce qu'on voudra dire ce que vous disiez, Peggy, c'est-à-dire, ça a été la cause de ceci. Ça m'a permis de faire cela, ça m'a empêché. Et donc, voilà, je crois que le fil, il y a cette tension parce qu'en amont, il y a déjà cette tension qui est à l'œuvre dans le fait même de construire un événement.
En vous écoutant, me vient une question, c'est celle de l'après-coup. Est-ce que finalement, le fil d'un récit ne serait pas un après-coup, c'est-à-dire penser l'événement une fois qu'il a eu lieu, qu'il est conscientisé en quelque sorte.
Oui, et parfois on a besoin de sens, d'ordre, ne serait-ce que pour savoir ce qui nous est arrivé. Parfois le récit, ça sert, vous voyez, pas seulement pour raconter et du coup interpréter, comprendre, saisir, mais aussi simplement nommer.
Oui, c'est ce que vous dites, nous est bien arrivé. Sûr. Oui. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs, raconter, c'est mettre de l'ordre. Comment finalement raconter l'indicible pour une personne qui a subi un traumatisme, par exemple, ou encore on peut penser effectivement à l'accident comme quelque chose oui. qui est bien souvent malheureux, fracas de la vie en dehors de toute dimension sociale. Ça arrive à tout le monde et oui. il faut en faire quelque chose.
Oui, oui. Et si je peux me permettre, Peggy, j'ajoute que, comme me disait un étudiant dans un cours cette année, la douleur, elle trouve toujours le moyen de s'infiltrer. Toujours. Même lorsqu'on met en ordre, même lorsqu'on linéarise. Et au fond, c'est ça que j'ai voulu étudier sur cette petite échelle. Hein. Je conçois bien que je restreins beaucoup le champ narratif en m'occupant seulement de sa connectique. C'est ça que j'ai voulu mettre en évidence. Au fond, que la douleur, elle trouve toujours le moyen de s'infiltrer.
Est-ce qu'on pourrait comparer en fait ce fil du récit à ce qui finalement est pour nous, pour l'être humain, une colonne vertébrale, ce qui nous tient debout?
Absolument. C'est ce qu'on a. C'est l'équipement qu'on a pour faire face à ce qui arrive, et sans doute depuis très longtemps d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on sait mieux faire qu'avant. Il y a toujours, comme dit quelqu'un qui s'appelle Grivel dans un livre qui s'appelle « Production de l'intérêt romanesque », c'est un trouble organisé. On en est là... tous et toutes, même si, évidemment, grâce à la narratologie, on a toute une série d'outils qu'on n'avait pas auparavant pour parler des phénomènes narratologiques. Mais disons que l'enjeu existentiel du récit auquel je me suis beaucoup attaché dans ce livre, c'est celui-là.
Je reviens sur cet ingrédient narratif dont vous parlez à plusieurs reprises, la répétition. Vous donnez un exemple, votre fille qui va à la cantine, qui revient et qui vous dit... J'ai mangé des spaghettis, mais qui le répète deux oui. fois. Ça crée effectivement une autre perception de l'histoire qu'elle vous raconte, qui pourrait être un seul et même événement très banal au fond.
Mais déjà, bravo Peggy d'avoir identifié cette fille comme la mienne. Bravo, parce que je l'indique pas, je ne parle pas de loup explicitement dans le livre. Mais oui, je parle de la répétition parce qu'à un moment, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait au minimum pour développer un événement. Et donc, du coup, je donne cette définition du récit comme développement d'un événement avec à minima une répétition. Et oui, l'exemple de quelqu'un qui dit « bon ben, j'ai mangé des pâtes » parce que c'est des pâtes, c'est pas des spaghettis.
Des pâtes,
mais
pardon.
Bon, disons des spaghettis, pourquoi pas, ça change pas grand-chose. Bon ben voilà, on a une phrase prédicative. Ma question, c'était... À partir de quel moment, de quelle expérience, on passe du prédicatif au narratif. Et je me suis dit qu'au minimum, il fallait... Ben, j'ai mangé des spaghettis, des spaghettis, des spaghettis. Voilà, cette répétition. Alors pourquoi? D'une part, parce que la répétition, elle va étirer le fait et du coup le temporaliser. Et donc voilà, on a le temps, hein, dont on sait bien depuis Ricoeur au moins à quel point ces choses consubstantielles au récit. D'autre part, parce que cette répétition, elle va titiller le causalisme. On va se dire, mais... Pourquoi est-ce qu'elle répète? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et du coup...
L'intrigue.
Et voilà. Et du coup, progressivement, on va passer de cet énoncé à une émotion, une intention. Peut-être aussi, on pourrait ajouter qu'il va s'entendre dans cette répétition une voix qui est seulement supposée ou postulée dans « j'ai mangé des pâtes ». Mais des pâtes, des pâtes, des pâtes. Alors, on entend quelqu'un qui raconte et puis bien sûr... qui raconte à quelqu'un.
Oui.
Et donc voilà, on a le début du récit. Je développe simplement l'idée de Deleuze qui est que la répétition, y compris la répétition à l'identique, elle crée de la différence. Je varie sur ce thème-là, mais je tâche de le préciser dans un contexte narratif.
Effectivement, on retrouve ces différentes formes littéraires dans l'envie chez vous d'aller chercher, d'aller creuser chez plusieurs auteurs, à la fois... anglophone, européen, et qui nous donne en fait à penser le fil du récit de manière tout à fait singulière. Et puis, vous convoquez aussi la philosophie, beaucoup la philosophie d'ailleurs, Bergson, Rancière. Sartre, Bachelard, c'est très, très riche, en fait, de références philosophiques. Pourquoi ce besoin de croiser les disciplines dans votre ouvrage ?
Alors, je pense que la première raison, on va dire du côté des artistes, auteurs, autrices, cinéastes, c'est parce que plus que personne, ces gens qui racontent des histoires ont bien conscience qu'il y a avec le fil du récit quelque chose qui peut vite être un carcan. Du coup, toute une série de tentatives dans la littérature et le cinéma, mais évidemment dans d'autres choses, mais disons que je parle de ça parce que c'est ce que je connais le mieux, pour jouer avec ça, le déjouer, le faire pendouiller, raconter autrement, ne pas être prisonnier. Bon, c'est un festival, mais on va dire du côté des grands récits, hein, du côté des gens qui ont l'art de conter. Du côté des autres sciences humaines, philosophie, je convoque toutes ces personnes que vous venez de dire parce que, d'une part, je suis attaché aux enjeux existentiels du récit, donc à la question de l'événement. Or, j'ai trouvé, au fond, plus chez les philosophes, des réflexions sur la question de l'événement. Je donne deux exemples avec Bergson et Hegel. L'exemple que donne Hegel d'un enfant qui discute avec un vieillard à la messe. Hegel explique qu'ils peuvent dire à la messe peut-être les mêmes choses, mais pour l'un, ces choses sont emplies de tout un parcours de vie, alors que pour l'enfant qui récite les mêmes prières, par exemple, c'est un peu comme des coquilles vides. Et ce qui est très frappant, c'est que Hegel pense que viendra un jour où l'enfant sera comme le vieillard, et lui aussi, il comprendra ce qui est là depuis le début, mais il lui manque que le temps de le savoir et de le comprendre. Donc du coup, j'en viens à dire que Hegel se donne le récit de tous les récits.
Il lui manque l'expérience.
Voilà. Et il lui manque surtout ce que j'imagine, comment dire, dans le sillage de Hegel, il lui manque surtout cette chose qui pourrait tout à fait se produire, qui est que le vieillard voudrait faire partager son expérience à l'enfant et du coup, il va lui raconter.
D'une certaine manière, on voit bien que le récit parle de l'homme lui-même. Oui. Et c'est ce que vous écrivez d'ailleurs, le fil du récit, c'est l'homme lui-même. Que nous sommes finalement au centre de ces écarts dont on parle, de l'avant et d'un après-événement, et que nous faisons nous-mêmes, finalement, le lien entre cet avant et cet après. Alors, est-ce que, pour vous, le récit est une manière vitale de faire sens ? C'est une manière de faire mémoire, voire même de faire société ?
Oui. Je précise que la formule « on est au centre d'écart », elle est si belle que les pas de moi, hein, c'est René Char, mais elle est parfaitement juste. On est entre continu, discontinu, entre l'urgence de dire et l'impossibilité ou la difficulté du moins de dire. On est aussi parfois tiraillé entre le fait qu'on voit bien ce qu'un récit peut avoir de factice, mais on en a besoin tout de même. Parce que si on pense à ce que Arendt dit, ce que l'on vit mène une vague existence d'ombre tant qu'on ne le raconte pas. Bon. Et j'en veux pour preuve, on va dire, le dernier exemple en date. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, Peggy, mais tout le monde parle de narratif.
Hein ? Oui.
Le narratif de ceci, le narratif de cela. On voit bien que quand les gens parlent de narratif, ils entendent une certaine version des faits, la version officielle des faits, la manière dont il faut raconter et donc comprendre ce qui est arrivé. Et donc, voilà, on a la suspicion. Le mot même dit la suspicion sur ce qui est arrivé. Et pourtant, des narratifs, on en a besoin, parce qu'on a besoin, on a besoin de sens, on a besoin de société, on a besoin de choses qui nous soudent. Et on sait depuis au moins les études sur les mythes que c'est une des plus grandes vertus du récit.
Dans ce cas, comment pourrions-nous évoquer la question de la vérité, finalement ? Est-ce que le fil du récit ne travaille pas ou ne flirte pas avec une certaine notion de vérité, des faits ?
C'est, là, Peggy, vous me posez une question pas facile. Hein. mais voilà comment je pourrais y répondre. Il me semble que ce qu'il peut y avoir de vrai dans le récit, c'est justement ces moments où il y a, même dans les formes les plus lissées, finies, par exemple un récit écrit, un récit filmé, il y a encore trace de l'événement qui était sans doute à l'initiative du fait même de raconter. J'en donne comme exemple dans le livre un extrait d'un petit poème d'Apollinaire qui s'appelle « Arbre ». Et d'ailleurs, peut-être que ça pourrait être une méthode d'analyse parce que en regardant de très très près ce moment, je me rends compte qu'il y a plusieurs endroits dans ce petit texte où la soudure ne tient pas vraiment. Et comme par hasard, ces endroits, ils sont à propos d'un d'un homme qui fait une crise d'épilepsie dans le train. Et du coup, peut-être que c'est ça qui s'est passé. Peut-être que c'est ça qui était au départ. Et ce serait ça la vérité de ce que raconte ici Apolline. Attention, je suis prudent. Hein, je suis prudent, mais voilà la réponse que je pourrais faire à propos de la vérité. Du moins, c'est ça qui me touche. Hein, c'est ça qui me touche, c'est quand le récit porte trace de l'événement, de la puissance disruptive de l'événement.
Je reviens sur cette question du fil. Il me semble que dans votre ouvrage, vous traitez aussi de la question qui concerne la perte de ce fil.
Oui.
Le fait que perdre le fil attire l'attention de l'auditeur. Pourriez-vous revenir sur ce point ?
Oui, oui. Je suis vraiment très heureux que vous me posiez cette question parce qu'elle va me permettre d'essayer de dire ce qui pourrait être l'utilité de ce livre. D'abord, il y a des réponses qu'on pourrait faire et on n'a pas besoin du fil du récit pour les faire. Perdre le fil, ça suscite l'attention parce que l'embarras suscite l'empathie. Aussi parce que si on a un peu l'oreille psychanalytique, on sait bien que c'est au moment où la personne parle face à quelqu'un qui a cette écoute flottante, c'est au moment où ça déraille, où elle digresse, c'est là où il faut tendre l'oreille. Parce que c'est là où quelque chose de l'inconscient peut émerger. Et puis, s'agissant de ce que j'essaye de dire dans le livre, j'ai été très frappé par le fait que lorsqu'on perd le fil de ce que l'on raconte, il y a la mécanique narrative qui s'expose. Parce que, tout d'abord, si je sais plus ce que je voulais dire, je vais commencer par répéter un mot. Hein. C'est ce que fait d'ailleurs Bataille dans l'exemple que je donne. On répète en se disant, bon, ça va peut-être allumer quelque chose.
Ouais, oui.
ça va peut-être revenir. Or, la répétition, c'est un principe d'enchaînement. On peut aussi essayer de voir ce qu'on a dit avant, en revenir sur ce qu'on a dit avant, et essayer de déduire du coup ce qui va venir après. Et là, on voit bien la logique, hein, la logique narrative, le passage du temporel au causal.
Passage aussi au silence qui est complètement évité en fait dans ce que vous racontez de cette répétition, c'est-à-dire comment éviter finalement le blanc.
Oui, absolument.
Le blanc du récit.
Mais c'est ce qui peut nous arriver de pire quand on raconte, non, et en particulier si on raconte une histoire drôle, de caler à un moment, d'avoir un blanc, de plus savoir. Bon, et si on prend un peu plus du recul, si on imagine toujours la personne qui perd son fil, peut-être elle va se dire, cette personne, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Quel était le but de mon histoire? Et on a là un troisième principe d'enchaînement. Enfin, si on est très fort, si on est par exemple aussi fort que La Fontaine dans le texte qui s'appelle Le pouvoir des fables, eh bien on voit que le narrateur, il va volontairement couper le fil de son récit pour captiver l'audience, la faire réfléchir. Et donc là, il va utiliser le blanc, il va utiliser l'intrigue. Pourquoi ? Parce qu'il va susciter le suspense, la curiosité et donner envie de savoir la suite. Perdre le fil, c'est le moment où la mécanique, elle s'enraye, qu'on la voit apparaître.
Oui, donc qu'elle soit finalement volontaire ou involontaire d'une certaine manière, puisque dans les deux cas, du côté de la fable, on est plutôt dans l'art du récit. De l'autre côté, dans l'événement d'intervenant qui ne sait plus quoi dire et qui répète plusieurs fois le même mot, on est dans l'accident.
Absolument.
Donc,
c'est pour ça que je disais que le narrateur de La Fontaine, il est très fort. C'est concerté. Hein, c'est une coupure qui est concertée. Et l'exemple que je donne dans le livre avec Bataille, qui, quelques mois avant de mourir, perd le fil de ce qu'il raconte, vous voyez, Peggy, c'est un peu les deux. C'est ça qui est très émouvant dans cet exemple, c'est que c'est vraiment un accident et qui d'ailleurs s'explique sans doute par des liaisons neuronales et puis en même temps, parce que c'est Bataille. Il dit là quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Eh bien, merci beaucoup Jonathan de Genève pour ce passionnant échange et pour nous avoir aidé à ne pas perdre le fil. Raconter, c'est peut-être une manière vitale d'exister, peut-être un acte même qui construit notre mémoire, notre société, voire même notre être au monde. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur du récit et nous remercions chaleureusement l'équipe audiovisuelle de la Sorbonne Nouvelle qui nous a généreusement offert son studio d'enregistrement et son soutien technique pour la réalisation de ce premier épisode de Talim Sanim.